Bonsoir à toutes et à tous. On a le plaisir de recevoir ce soir Georges Bensoussan, qui est, moi je le dis sans forfanterie et surtout sans doute, qui est, je pense, un des tout meilleurs historiens français que nous avons la possibilité d'avoir sur la question de la Shoah, même si les premiers travaux universitaires et de recherche de Georges Bensoussan n'ont pas porté d'ailleurs sur la Shoah. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment être très heureux de vous compter parmi les invités de la librairie Molin dans le cadre des conférences et des présentations d'ouvrages. Alors, vous avez publié aux Presses universitaires de France, dans la collection qui s'appelle Intervention philosophique, dirigée par Charles Zarka, vous avez publié, Yves-Charles Zarka, vous avez publié L'histoire confisquée de la destruction des Juifs d'Europe, avec un sous-titre « Usage au pluriel d'une tragédie ». Alors, l'expression « destruction des Juifs d'Europe », on l'a évidemment maintes et maintes fois rencontrée. Je pense en particulier aux grands travaux fondateurs aussi de Raoul Hilberg, « La destruction des Juifs d'Europe ». Là, vous avez choisi un titre qui est forcément long. Hein, et je voudrais vous poser deux questions liminaires, peut-être, cher Georges. L'histoire confisquée par qui? Et puis, usage d'une tragédie, usage au pluriel, de quels usages s'agit-il?
Bon, merci d'abord pour l'invitation, Librairie Molin. Merci aussi pour ce dialogue. Alors, l'explication sur le titre, qui est un peu énigmatique, je le reconnais, confisqué par précisément un certain nombre d'usages politiciens, pas seulement, mais aussi sociétaux, nationaux aussi, de la tragédie. Et usage d'une tragédie, mais c'est usage, en fait, de façon très, très, très diverse, que ces usages se manifestent dans la société française et occidentale, pas seulement française, depuis une bonne trentaine d'années, disons, depuis que la Shoah est devenue un phénomène culturel omniscient, je dirais omniprésent, omnipotent, depuis qu'on en parle beaucoup, parce que personne ne peut contester qu'elle tient une place centrale. Donc, je dirais, pour être plus concis en un mot, qu'on a affaire à une forme de trivialisation de l'histoire de la Shoah, et qu'avec cette trivialisation, on perd de vue ce qu'est réellement cette histoire. C'est en ce sens que j'ai tenu beaucoup au sous-titre, usage d'une tragédie, alors que l'éditeur, comme toujours les éditeurs, veulent des titres courts hein, et ne veulent pas encombrer la couverture, ne tenait pas tellement au sous-titre.
Page 461, c'est la toute fin de votre livre, c'est au début de votre épilogue. Je trouve que vous avez une phrase qui dit presque tout de votre livre, mais on va y revenir parce que j'ai pris énormément de notes, c'est un livre qui est tout à fait passionnant, je dis d'emblée. Je vous cite, hein, « si loin de désarmer la haine ». La catastrophe juive, je rappelle, mais nombre d'entre vous, j'imagine, le savent, Shoah est un terme hébreu qui signifie catastrophe telle qu'il n'en existe pas de plus grande. Hein. Donc la catastrophe juive l'encourage à nouveau. C'est aussi le signe que la haine ne demandait qu'à renaître quand nous avions pensé trop vite que ce désastre érigerait une digue morale. Oui. Là, d'une certaine façon, on peut dire que le réveil est d'autant plus brutal que d'abord, il ne fallait pas s'endormir, sans doute, mais aussi parce que, si j'allais dire, c'est un réveil brutal consécutivement à un lent processus de dégradation. Est-ce que vous partagez cette image?
Oui, un lent processus de dégradation, c'est vrai, et vous avez raison aussi de dire qu'on n'aurait pas dû s'endormir, c'est-à-dire sacrifier à l'illusion selon laquelle on pouvait éradiquer, je ne dis pas endiguer, hein, je dis éradiquer complètement l'antisémitisme. Ça, c'est une pure illusion. Dès lors qu'on comprend la nature profondément psychopathologique de l'antisémitisme comme passion collective. Comme
alors, on va y revenir parce que je vais vous faire parler de Léon Poliakov.
Hein. Ah, d'accord.
Mais, voilà. Mais allez-y. Oui,
oui, donc on n'aurait pas dû s'endormir, effectivement. Et l'illusion... c'est l'illusion naïve selon laquelle l'enseignement de la Shoah, et c'est constant dans ce livre, j'y reviens à plusieurs reprises, l'enseignement de la Shoah parviendrait à faire une société plus tolérante et où, entre autres, racisme, antisémitisme, ségrégation sous toutes ses formes, finirait par reculer et qu'on aurait une société plus pacifiée. Alors, le simple exemple de la société française, et c'est sans doute la société où l'enseignement de la Shoah est le mieux fait en Europe.
Qu'est-ce que vous dites, oui.
Et ce n'est pas par esprit cocardier que je le dis, il suffit de voir que les rectorats, les académies de la plupart des grands pays d'Europe, sauf l'Allemagne et l'Angleterre pour l'instant, nous envoient leurs professeurs, souvent une semaine au mémorial de la Shoah, une semaine par an, pour suivre un séminaire. Donc, la France, le mémorial en tous les cas, est reconnu comme centre de formation. D'ailleurs, une convention a été signée avec le ministère de l'Éducation nationale. Et en même temps, nous sommes le pays où, je ne vous apprends rien, l'antisémitisme est le plus meurtrier, probablement en Europe, avec la Belgique. Nous sommes le seul pays d'Europe où, depuis 2012, 12 juifs ont été assassinés en tant que juifs. Et pour cela seulement.
Au début de votre livre, vous citez Vladimir Jankélévitch, qui parlait du génocide des Juifs comme l'invisible mauvaise conscience de toute la modernité, et il désignait cela comme l'indicible ou l'inavouable secret. La question que je voulais vous poser sur le début du livre, est-ce inavouable, parce que pour parler comme Pierre Legendre, que vous citez aussi, un grand philosophe français, ça, la destruction des Juifs d'Europe, la Shoah, renvoie à la problématique du meurtre de l'ancêtre. Oui. Et de quel ancêtre s'agit-il alors ?
Alors, si on suit Pierre Legendre, et je reconnais que j'ai une dette morale envers Pierre Legendre, qui est à mon avis l'un des penseurs les plus profonds de la modernité,
je suis tout à fait d'accord avec
de la crise de la modernité, de la crise de la démocratie, de la désinstitutionnalisation de la société.
Et du pouvoir, et du pouvoir aussi.
Et du pouvoir, absolument. Et donc de ce que représente la Shoah dans l'imaginaire, dans l'histoire occidentale. Ce que dit Pierre Legendre quand il dit que c'est le meurtre de l'ancêtre, c'est de lui cette formule, le meurtre de l'ancêtre. Il veut dire par là qu'en fait, à travers la Shoah, le crime collectif du judéocide, c'est le meurtre de l'origine qui a été perpétré. Le judaïsme étant à l'origine de ce monothéisme chrétien qui a fait la civilisation occidentale, et même du monothéisme musulman qui a fait la civilisation musulmane, il a attiré sur lui toutes les foudres de la haine, de la revanche, de la volonté d'éradication. On peut appeler le meurtre du père, ou lui appelle ça, je préfère sa formule, le meurtre de l'ancêtre, comme si l'existence même d'une généalogie était troublante, qu'il fallait supprimer l'origine. Alors après, toute la question est de savoir pourquoi une telle haine de l'origine, puisque vous connaissez la fameuse formule, je crois que je la cite dans le livre, mais je ne suis plus très sûr, de Daniel Siboni, qui dit que l'origine de la haine, c'est la haine de l'origine. Il dit en d'autres termes ce que dit Legendre.
Mais Poliakov, vous me corrigez si je me trompe, dans le Bréviaire de la haine, dit que un des fondements de l'antisémitisme premier, c'est aussi le monothéisme, c'est-à-dire le fait que le judaïsme a été la première religion. Alors on pourrait évoquer la dimension platonicienne du bien, mais ça c'est autre chose. Et puis quelques moments particuliers comme Akhenaton, etc. Mais le judaïsme est la première religion qui finalement supprime les idoles et crée le monothéisme. Est-ce que c'est ça qui lui est, d'une certaine façon, constamment reproché ?
Alors, selon certains, oui, évidemment, si on s'en tient à une origine purement religieuse de la haine anti-juive qui s'est focalisée dans le christianisme de la façon que l'on sait, dans l'histoire de la haine anti-juive du christianisme, c'est d'abord et avant tout la non-reconnaissance de la messianité de Jésus.
D'accord.
Cette non-reconnaissance de la messianité de Jésus fait que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, le dialogue entre judaïsme et christianisme était impossible, car tant que le judaïsme persistait dans sa foi, ça signifiait que le christianisme était, malgré tout, une religion inaccomplie. La religion chrétienne ne pouvait aller vraiment jusqu'au bout de son accomplissement que si le judaïsme disparaissait. C'était aux yeux des chrétiens une foi caduque, et cette persistance dans l'entêtement, c'est ce que souvent les milieux chrétiens ont parlé des juifs en termes d'entêté, têtu, un peuple têtu, le peuple à la nucrète, etc., on connaît les formules, cet entêtement, cette persévérance dans la foi juive a été au fil des siècles un démenti constant à la vérité chrétienne de la messianité de Jésus. Et ça, c'est l'empêchement numéro un à une société pacifiée, plutôt que de l'invention du monothéisme. C'est d'abord et avant tout cette secte juive qui, on sait, dans les deux siècles qui ont suivi la mort de Jésus, va devenir une religion différente, alors qu'on sait très bien, Jésus, les apôtres, etc., sont juifs et rien que juifs. Ils ne se veulent rien d'autre que juifs.
Vous écrivez, Il y a vraiment des passages très forts dans votre livre. Hein. La destruction des Juifs d'Europe est incompréhensible en dehors de l'étude d'une culture européenne qui a fantasmé leur mort des siècles durant. C'est ce qu'on vient de dire. La route de l'extermination est contradictoire et tortueuse. Elle mêle éléments archaïques et figures modernes du rejet, peur infantile, démonologie, anti-judaïsme chrétien et croyances païennes. Je me suis permis d'ajouter à cet inventaire, on pourrait ajouter anticapitalisme gauchiste et anti-sionisme militant aujourd'hui, voire antisémitisme honteux. Et nationalisme exacerbé se dressant contre le cosmopolitisme. Ça, c'est la dimension, j'allais dire, plus politico-économique. Oui. Mais vous concluez ainsi sur ce point, mais sans éclairage de ce terreau-là, il n'y a pas de lecture historique qui vaille. Et je voulais vous poser la question suivante. Vous qui êtes un grand historien, est-ce qu'on parvient, pour reprendre la fameuse formule de Marx dans la préface du 18 Brumaire, le poids des générations mortes pèse comme une chape de plomb sur le cerveau des vivants. Est-ce qu'on parvient, quand on est historien de la Shoah, comme vous l'êtes, à réussir à soulever la chape de plomb qui pèse sur le cerveau des vivants ?
À la soulever, sans doute pas. Alors, ce serait vraiment être très présomptueux, à dire au moins qu'elle existe.
D'accord.
C'est tout ce que peut faire l'historien. Dire, je reprends la belle formule de Marx que vous citez, que nous sommes très largement des êtres parlés par les générations mortes qui nous ont précédés.
Exactement.
Et dans ce domaine, le judéocide, le génocide des Juifs d'Europe, est incompréhensible si on ne le connecte pas à au moins 10 siècles d'histoire chrétienne, d'histoire occidentale et chrétienne, qui a forgé, au fil des générations, des figures diaboliques du juif, des figures du rejet, qui ont préparé les esprits à cette idée que l'élément juif, le signe juif, comme on dit aujourd'hui, ce signe juif était en trop dans la civilisation occidentale, sous-entendu que la civilisation ne pourrait vivre apaisée que quand ce signe aurait disparu. Donc sans cette sédimentation culturelle-là, totalement oubliée, parce que précisément le propre de cette sédimentation culturelle, c'est qu'on l'a oubliée, mais qu'elle est restée parlante en nous et qu'on est des êtres parlés, tout en étant des êtres parlants, sans cette sédimentation culturelle-là, on ne peut pas comprendre d'où, à mon sens, l'erreur fondamentale de ceux qui focalisent le judéocide sur l'histoire du nazisme, sur, disons, les 50 années qui précèdent le début de la catastrophe. C'est très insuffisant. Et en particulier, quand on se focalise sur la montée du nazisme ou la Première Guerre mondiale, ou les conséquences de la Première Guerre mondiale, c'est très important, c'est central, mais ce sont des facteurs déclenchants. En réalité, les facteurs de fond, ce qui fait le terreau culturel qui permet à la catastrophe de s'épanouir, est bien antérieur.
C'est ce que Sartre appelle les causes occasionnelles par rapport aux soucis profonds.
Exactement, ouais. C'est ça.
Alors, vous dites qu'on est à un moment particulier quand même maintenant, et vous dites que c'est d'ailleurs une des raisons de l'angoisse, c'est la disparition des derniers rescapés.
Oui.
Et vous dites, d'une certaine façon, ça accouche peut-être aussi d'une crise, mais ça ajoute au sentiment que finalement, on est en train peut-être de perdre les dernières occasions de se protéger, peut-être aussi.
Oui, parce qu'on a c'est une croyance presque magique dans cette idée que ceux qui ont vu l'horreur, d'une certaine façon, nous protègent de l'horreur.
Oui.
Et qu'avec la disparition de ceux qui ont vu l'horreur, nous sommes, comme dit la formule, les témoins des témoins, mais que c'est très insuffisant parce que cette génération qui a vu l'horreur, elle était comme une digue protectrice. Et désormais, nous sommes face à la possibilité du mal absolu sans aucune défense possible. C'est très puéril comme raisonnement, mais c'est aussi de façon puérile qu'on raisonne. C'est-à-dire que nos mécanismes de défense contre l'angoisse sont des mécanismes souvent puérils parce que on trouve, ce sont toujours des bricolages, ces mécanismes de défense contre l'angoisse.
C'est-à-dire que c'est tellement sidérant aussi que ce qui s'est passé.
Oui.
On ne voit pas comment on pourrait, quelque part, échapper à ce statut d'enfant sidéré face
exactement,
à
ça. Exactement. C'est tout à fait juste ce que vous dites, à savoir que c'est tellement sidérant qu'on multiplie les mécanismes de protection de l'angoisse et donc on multiplie les croyances mythologiques pour se protéger de cette angoisse qui est proprement sidérante. Alors, je précise sur sidérant, et c'est pour ça que dans le livre, j'insiste beaucoup dans les 20-30 premières pages du livre sur cet aspect de l'histoire. Pour entrer dans la catastrophe génocidaire, il faut sortir des formules clichés.
Oui.
6 millions de morts, les heures les plus sombres de notre histoire, et puis alors, je passe sur les plus jamais ça et compagnie. Bon. Mais pour entrer vraiment dans cette horreur-là, il faut raconter par exemple ce qu'était Belzec, raconter ce qu'était Treblinka. et pas se contenter du premier cercle de l'enfer ou de l'euphémisation ou de parler simplement des déportations en termes toujours très, très feutrés, très euphémisés. Non, entrer vraiment dans l'industrie du meurtre de masse, de ce qu'a été Treblinka. Et là, vous êtes saisi d'angoisse.
Et ça permet aussi de comprendre la singularité de ce qui s'est passé.
Bien sûr.
Parce que vous y revenez quand même à maintes reprises. Ce n'est pas comparable avec ce qui s'est passé, oui, évidemment, au Goulag, ou même sur le génocide arménien, ou l'Holodomor ukrainien. Et cette problématique et cette question de la singularité, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a le sentiment, alors que vous dites l'histoire, cet épisode, ce moment de l'histoire est très bien enseigné, on a quand même l'impression que l'ignorance est extrêmement forte. Par exemple, la confusion entre les centres de mort qui ont été, oui, Bełżec, Treblinka, non, enfin Auschwitz pour partie, mais pas tout Auschwitz,
oui, hein,
ou évidemment
Sobibor, par exemple.
Sobibor, par exemple. Mm. Ces endroits-là qui, en particulier, faisaient, Annette Vivorka dit ça très bien, les victimes arrivaient, elles n'étaient pas grasses, mais elles n'étaient pas du tout maigre, elle n'était pas du tout. Elle pouvait être dans des conditions de dénutrition parce que quand on sort, oui, du ghetto de Varsovie, oui, on n'était pas au mieux. Mais vous dites même, vous citez même Giorgio Agamben, hein, qui a quand même une certaine surface intellectuelle dans son livre Ce qui reste d'Auschwitz. Il confond, il voit des musulmans à Treblinka. C'est une aberration historique.
Total. Mais je pense que Agamben, malgré toutes ses capacités de philosophe, est passé à côté de l'histoire de la Shoah, complètement à côté. Mmh. Ce qu'il décrit dans Le Musulman, c'est le détenu, le déporté, arrivé à la dernière extrémité de ses forces. Mais ce n'est pas ça, Treblinka.
C'est ce dont parle Primo Levi.
C'est Primo Levi. Pour arriver à la dernière extrémité de ses forces, encore faut-il avoir été incarcéré, tatoué, comme Auschwitz, etc. Treblinka, c'est autre chose. C'est l'usine de meurtre. Bon. Et alors, face à cette usine de meurtre et à cette sidération, on multiplie les empêchements de savoir. Il y a une véritable passion à ne pas savoir. Il y a une passion à ne pas voir.
Et pourquoi, non?
Mais précisément pour se défendre contre l'angoisse. Il y a une phrase de Saoul Bellow, je ne l'ai pas là, je ne la connais pas par cœur, mais qui est extraordinaire, qui dit à peu près ceci, je cite de mémoire, que c'est extraordinaire de constater les trésors d'intelligence que l'on met pour ne pas comprendre.
D'accord. Oui.
Parce que l'angoisse est beaucoup trop forte, donc alors on va multiplier quoi? Le confusionnisme historique. Oui. Par exemple, bon, ben oui, Treblinka, la Shoah, etc., c'est une horreur absolue, mais il y a eu d'autres Shoah dans l'histoire, d'autres tragédies du même acabit, alors que cela, on a ici une non pas une catastrophe singulière, parce que c'est une banalité de dire que toute histoire est singulière, on a une catastrophe sans précédent. Oui. Dans l'histoire, on n'a jamais vu Treblinka, et depuis, on n'a jamais revu Treblinka, et heureusement. On a vu d'autres génocides avant, on a vu d'autres génocides après, mais cette industrie du meurtre de masse qui va chercher des victimes aux quatre coins de l'Europe pour les amener dans un centre de mise à mort comme une usine conçue uniquement à cet effet de détruire des êtres humains et de les réduire en cendres pour que leurs souvenirs même soient complètement effacés, ça c'est du jamais vu.
Vous dites le directeur de Treblinka, Stengle, oui, à Berlin, sa promotion, il la doit à l'augmentation des cadences d'extermination.
Oui.
Le directeur d'un camp goulag soviétique, il la doit à l'avancée éventuellement du barrage qui va être construit par une manœuvre, oui, réduite à l'esclavage. La vraie différence, elle est là.
La différence, elle est là, elle est centrale. Alors, ça n'est pas du tout trouver des excuses au goulag et à l'horreur concentrationnaire soviétique. C'est dire simplement, ce sont deux catastrophes qui ne sont pas de même nature politique. Un peu comme les gens qui mettent sur le même plan Hiroshima et Auschwitz. Ce sont deux catastrophes aussi, mais qui relèvent de natures politiques complètement différentes, parce que Hiroshima, c'est une catastrophe voulue par les Américains, qui est un crime de guerre, qui vise à faire plier le Japon le plus vite possible, et quand le Japon plie après le deuxième bombardement atomique, il n'y a pas de troisième bombardement. Quand bien même les Américains n'avaient pas de troisième bombe, mais peu importe. Ils avaient des bombes au phosphore, de quoi réduire le Japon en cendres. Ils ne l'ont pas fait. Parce que Hiroshima, c'est un moyen. Auschwitz est une fin en soi.
D'accord.
Alors c'est l'une des différences de fond, mais il y en a d'autres.
Oui, oui. Vous avez, alors justement, au chapitre des différences, si je puis dire, vous avez une catégorie sur laquelle je voudrais que vous développiez un peu, c'est la notion de césure anthropologique. Vous dites, il y a une césure anthropologique dans la destruction des Juifs d'Europe, c'est page 30 de votre travail. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression-là ?
Je veux dire par là que, pas seulement parce que dans le moyen même du meurtre de masse, c'est-à-dire les grands centres de mise à mort de l'action Reinhardt, je ne parle pas des Einsatzgruppen qui sont encore des, entre guillemets, des massacres à l'ancienne.
Encore oui, que. Enfin, un million de morts par balle.
Un million et demi par balle. mais
donc Action Reynard
avec cette méthode à l'ancienne qui tient à ce que le meurtrier va à la victime, tandis qu'avec les centres de l'Action Reinhardt ou Auschwitz ou d'autres centres de mise à mort, c'est la victime qu'on amène au meurtrier. Mmh. C'est très différent. Mmh. Alors que dans le génocide des Arméniens, dans le génocide des Tutsis, c'est toujours le schéma ancien, le meurtrier s'avance vers la victime et la tue. Bon. Pourquoi césure anthropologique? Tout simplement parce que quand on prend ce qu'a été l'Action Reinhardt, ce qu'a été le cœur de la solution finale, c'est-à-dire Auschwitz-Birkenau, je parle de Auschwitz II, hein, et des centres de l'Action Reinhardt, c'est-à-dire le gazage en particulier, c'est réellement la première fois dans l'histoire qu'un peuple s'arroge le droit de dire « ce peuple-là est hors humanité ». Et cette hors humanité-là le conduit nécessairement à une mort souhaitable pour que nous restions en vie, pour que l'humanité puisse prospérer enfin, pour que l'Allemagne soit libre, etc. etc. C'est-à-dire une mise à l'écart de toute une frange de l'humanité, d'une portion du genre humain qui a décidé qui pouvait ou ne pouvait plus habiter la planète. C'est cette toute-puissance qui est théoriquement la puissance dévolue à Dieu, qui s'arroge le droit de dire « vous ne pouvez plus, vous n'avez plus le droit d'habiter la planète, n'a plus le droit d'habiter parmi nous », ça c'est une véritable césure anthropologique, c'est-à-dire qu'on avait jusque-là une coupure humanité-animalité, qui est très connue, mais cette coupure radicale au sein même de l'humanité entre ceux qui appartiennent à l'humanité et ceux qui n'en appartiennent pas, pas comme sous-hommes, pas du tout, mais comme non-hommes, non-hommes, ça c'est très important. D'ailleurs, il y a un grand nombre de témoignages dans les chroniques des ghettos où le nazi s'adresse aux juifs pour lui dire « tu n'es pas un homme, tu n'es pas un animal, tu es un juif ». J'ai ça encore hier dans le manuscrit du journal de Ringelblum qu'on publiera au mois de septembre prochain. C'est Ringelblum qui rapporte ce propos. Ça m'a frappé parce que ça correspond exactement à cette fameuse coupure.
Ringelblum qui est l'archiviste du ghetto de Varsovie. Voilà. Ça veut dire que les
nazis... Elle est là, la coupure,
oui. Fondamentalement. Ça veut dire que les nazis considéraient que les juifs étaient en trop et de trop.
Oui,
ça.
Ils ne sont pas sous-hommes, ce ne sont pas des sous-hommes comme les Slaves, par exemple, des Noirs, là, dans le racisme basique. Ils sont non-hommes, ce sont des créatures perfides qui empêchent le genre humain de vivre.
D'accord. Est-ce que c'est, entre autres, parce qu'il y a eu des travaux en particulier qui ont documenté cela, est-ce que c'est, par exemple, une des explications du recours à des outils d'extermination qui étaient, par exemple, réservés aux poux, aux punaises, à tous les insectes nuisibles? Par exemple, évidemment, le zyklon, etc.
Alors, là, la question est difficile, la réponse est difficile, parce que la chambre à gaz n'a pas été inventée par les nazis. Les Américains ont commencé à gazer dans les années 20, leurs condamnés à mort. Bon. La chambre à gaz, en Allemagne, n'est pas mise en état de fonctionner, d'abord pour les Juifs, mais d'abord pour les malades mentaux. Ce sont eux qui ont été les premiers gazés.
Et vous dites que c'est la première fois, d'ailleurs.
C'est la première fois, oui. Et là aussi, d'ailleurs, il y a...
La première fois qu'on fait ça en Europe.
Oui, c'est d'ailleurs...
Les actions T4.
Là aussi, il y a une césure anthropologique. Parce que toutes les sociétés ont rêvé de se débarrasser des bougies inutiles. Rares sont les sociétés modernes, développées et occidentales. Je ne parle pas d'autres sociétés qui ont franchi cette ligne rouge-là. Bon, c'est-à-dire cette ligne rouge de l'eugénisme négatif qui consistait pas seulement à laisser végéter des vies, ça, on en avait l'habitude, mais qui consistait carrément à les tuer. Donc, pour revenir à la chambre à gaz... Est-ce que la perception du juif comme hors humanité a joué dans le moyen du meurtre de masse? C'est possible. On ne peut pas en avoir la certitude dans la mesure où c'est un moyen de meurtre qui avait déjà été utilisé pour les malades mentaux.
D'accord.
Et qui a été, là, cette fois, généralisé. Alors, on peut aussi se poser la question, pourquoi généraliser? D'abord, pour des raisons techniques. Ça va beaucoup plus vite, évidemment. C'est aussi beaucoup moins éprouvant pour les tueurs. On sait que les tueurs de Einsatzgruppen ont subi des chocs nerveux, etc.
Ils ont
sombré dans l'alcoolisme.
Ils ont mis du temps.
Oui, du temps.
Christopher Brüning montre bien, dans le 101e bataillon de la police allemande, qu'ils mettent du temps à en avoir marre, quand même.
Et pas tous, puisque certains, au contraire, en redemandent.
Oui, bien sûr.
Bon. Mais surtout, la chambre à gaz a cet intérêt, je mets intérêt entre guillemets, de couper totalement la chaîne de culpabilité.
D'accord.
On ne sait pas qui tue. Qui tue? Personne, en fond. Parce que c'est celui qui fait rentrer les juifs dans la chambre à gaz, c'est celui qui met le zyklon B, ou c'est celui qui actionne le moteur diesel quand c'est au monoxyde de carbone, on ne sait pas.
D'autant que ce sont les Sonderkommando qui vident la chambre à gaz.
En plus. Voilà.
Page 31, vous dites « Treblinka a cassé le rêve des Lumières ». Oui. Alors, je pense qu'il faut que vous expliquiez. Moi, je, dans mes travaux sur la Pologne, je suis allé sur ces sites. Donc, il n'y a plus rien à Treblinka aujourd'hui. Mais c'est un endroit qui est quand même tout à fait unique. Hein, c'est situé à Małkinia Górna, entre Varsovie et Białystok, sur la ligne de chemin de fer. Treblinka, c'était en fait un tout petit lieu, c'était un tout petit camp. Enfin, c'était un lieu d'extermination avec une fausse gare, voilà, avec des canisses là, pour protéger, pour aller jusqu'à la chambre à gaz. Bon. Quand on est, par exemple, cette fois-ci à Birkenau, et qu'on est sur la tour là, de la porte de Birkenau, la première fois qu'on y va, on comprend quelque part que l'idéal logico-rationnel de l'esprit des Lumières s'arrête au bout de la rampe, là, oui. Là où il y a maintenant le mémorial international. Qu'est-ce qui peut guérir l'humanité de ce terminus historique, à votre avis?
Alors, c'est pas exactement la même question que la première question, à savoir pourquoi cette phrase « Treblinka a cassé le rêve des Lumières ». Alors, Treblinka a cassé le rêve des Lumières, parce que ce rêve des Lumières, c'est celui d'une humanité perfectible, qui, par l'éducation, sera amenée toujours à mieux faire. Or, le crime n'a pas été commis par une nation d'illettrés, de sauvages ou de sous-développés. Le crime est commis par une nation parmi les plus instruites et les plus cultivées d'Europe. Bon, même si ce n'est pas forcément l'Allemagne la plus cultivée qui a participé au crime, il se trouve quand même que c'est un terreau culturel allemand qui a enfanté le nazisme. Pas tout le terreau culturel allemand, mais une partie du terreau culturel allemand qui est responsable du nazisme. Et encore une fois, le nazisme, ce n'est pas seulement Adolf Hitler, le NSDAP et tout ça. C'est bien plus profond et ancien que ça. Donc sur ce plan-là, oui, le rêve des Lumières a été très largement entamé. C'est-à-dire que l'humanité n'est pas perfectible. Que le mal est inhérent, profondément inhérent à la nature humaine, et que la guerre est une donnée permanente de l'espèce humaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous en payons le prix d'avoir oublié cette évidence-là. Que la guerre est une donnée permanente de l'histoire des hommes. Bon. Donc d'avoir imaginé une société totalement pacifiée d'où la guerre serait complètement bannie, c'est un rêve. C'est peut-être un vieux rêve des Lumières, un rêve qui a été ressuscité dans les années 28-29. Le fameux pacte Briand-Kellogg, par exemple. Quelle belle illusion, 10 ans après, c'était la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est un rêve. Et bien alors ensuite, la deuxième question, là, cette fois, elle est encore beaucoup plus difficile, votre question, savoir qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de
ce terminus historique qui est celui du bout de la rampe d'Auschwitz, en quelque sorte.
Qu'est-ce qui pourrait plutôt nous faire sortir de ce désespoir historique qui a été Treblinka?
C'est ça.
La lucidité.
D'accord.
C'est tout.
Pas la culture, la lucidité.
Non, pas la culture. Surtout pas.
Alors vous allez comprendre.
Certainement pas la culture.
Vous comprenez pourquoi je parle de la culture, puisque vous citez Adorno, et vous dites, vous recitez cette phrase d'Adorno qu'on a citée plein de fois, « Écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare. » Je me suis reporté sur la phrase exacte d'Adorno. En fait, il dit, je parle très mal allemand, « Alle nach Auschwitz, Kultur ist Müll ». Après Auschwitz, la culture, c'est de l'ordure. Enfin, c'est même plus que ça, c'est presque de la merde.
Oui.
Cette phrase d'Adorno, qui est un peu la même que « Écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare », comment vous l'interprétez dans le livre? Vous la réappropriez?
Oui, je la réapproprie, parce qu'on a mal compris Adorno et on lui a fait un mauvais procès. Adorno n'a jamais dit qu'après Auschwitz, on ne pouvait plus écrire de poésie. Il a dit « Après Auschwitz, on ne peut plus écrire de poésie comme avant ». C'est le « comme avant » qui manque. Comme souvent, d'ailleurs, dans les citations, on oublie toujours deux, trois mots clés. Et ce mot est très important, c'est « comme avant ». Autrement dit, que sur le plan culturel, on ne peut pas raisonner dans les mêmes termes qu'avant Treblinka, c'est tout. Nos paramètres de pensée ont été modifiés par la catastrophe et il faut en tenir compte. C'est tout ce qu'il voulait dire par là. Alors, quant à la phrase, l'original en allemand sur la culture, je crois que ce qu'il voulait dire par là, c'est que la culture n'a rien empêché du tout.
D'accord.
Qu'effectivement, le crime a été commis par une nation de gens cultivés. Et ce n'est pas seulement une image et un cliché que de dire que certains des assassins de très haut rang, et on sait que...
Heydrich, par exemple,
était un homme cultivé, mais d'autres aussi étaient cultivés. D'autres étaient...
Des brutes épaisses.
Étaient des brutes. Bon, par exemple, Himmler n'avait strictement aucune culture, Eichmann non plus, etc. C'est des individus... Bon. Mais un certain nombre de tueurs de très haut niveau, les chefs des Einsatzgruppen, on sait que 3 des 4 des chefs des Einsatzgruppen étaient des docteurs en philosophie, en théologie, en économie, etc. Je crois, je ne veux pas dire d'erreur, mais je pense que le niveau de diplômé du supérieur parmi les officiers de la SS était pratiquement de l'ordre de 50%. Les gens qui avaient donc des diplômes post-maturité, comme on dit en anglais, post-bac, Donc que la culture n'ait rien empêché du tout, c'est quelque chose qui a été largement démontré. Alors encore faut-il s'entendre sur le sens du mot culture. Si la culture, c'est simplement cette accumulation de savoir, de connaissances, de goûts, de raffinement, etc., ça n'a rien empêché du tout. Si la culture est synonyme de la pensée, alors là, oui, au contraire. S'il y a barrage à la barbarie et à la violence, c'est la pensée qui fait barrage et c'est pas la culture. Alors si on assimile les deux, bon, on peut dire la culture, effectivement, c'est la digue essentielle pour tenter de contrer la barbarie ancienne, comme la barbarie qui vient plutôt. Mais c'est la pensée, donc j'insiste là-dessus. Oui. C'est vraiment le fait de pouvoir penser, et c'est ce qui explique d'ailleurs que face à la barbarie absolue, ceux qui se sont dressés contre la barbarie, c'était pas forcément des gens cultivés au sens académique du terme. C'était le tout venant, c'était des gens cultivés comme des gens sans culture académique au sens premier du terme.
Vous citez le 150e anniversaire, je crois, de la naissance de Mozart, hein, qui a donné lieu à des fêtes, cérémonies en 1941.
C'est ça, oui, c'était en 1941.
Qui rassemble à Salzbourg, à Vienne, tout un tas de hauts dignitaires qui sont, j'allais dire, presque dans cet entre-soi d'un groupe qui est capable des pires décisions, puisqu'on
est... C'est-à-dire au même moment du 150e anniversaire de la mort de Mozart, en 1941, au même moment ont lieu les pires tueries sur le front de l'Est,
Zadruppen. Alors, vous écrivez toujours dans votre livre, le génocide juif interroge l'Europe du crime comme il questionne ses descendants. De là, ce qui participe aussi de l'agacement actuel contre le signe juif, on y vient, et contre le trop-plein de mémoire. Alors, est-ce que cette lassitude, à votre avis, est consécutive à cette trivialisation dont on parlait au début de notre entretien, ou est-ce qu'elle est plus cyniquement instrumentalisée et utilisée à d'autres usages?
Cette attitude, ce sentiment de lassitude?
Oui.
Alors, je crois que ce sentiment de lassitude, il vient d'un sentiment de culpabilité qui est difficile à assumer. À savoir que, dans la mesure où aujourd'hui, la Shoah est omniprésente, je l'ai dit, dans l'espace public, dans l'espace culturel, il n'y a pratiquement pas un mois sans qu'il y ait un livre sur le sujet ou un film qui l'évoque de loin. Et on sait que dans la rentrée romanesque française, au mois de septembre, ça a été dit en 2010, je me souviens, par Le Monde des Livres, qui avait estimé qu'environ un sixième des 700 nouveaux romans de cette rentrée-là avaient trait de près ou de loin à l'histoire du génocide des Juifs d'Europe. Bon. Donc, que ce soit un sujet central, on le voit, il suffit de voir les films, les productions, etc. Dans l'enseignement, personne ne peut dire qu'on ne l'aborde pas. On l'aborde à trois niveaux de l'enseignement. Le CM2, la troisième et le lycée, en première. Bon. Donc, est-ce que ce trop-plein mémoriel de la Shoah, ce trop-plein plutôt historique, et donc mémoriel aussi de la Shoah avec les commémorations? Regardez le nombre de commémorations, 27 janvier. Puis il y a l'écho du Yom HaShoah en Israël. Puis il y a la journée de la déportation en avril, où forcément on évoque aussi le sort des déportés juifs, même si ça c'est les déportés... Puis il y a les grandes rafles sur le territoire français, c'est la journée du mois de juillet. Ça en fait quatre au moins. Bon. Donc, est-ce que cet envahissement mémoriel ne suscite pas un sentiment de trop-plein? Ce trop-plein réveille une forme de culpabilité qui, à un moment ou un autre, mute en agressivité. Parce que la culpabilité ne reste jamais en l'état, c'est comme un phénomène chimique. Elle se dégrade en agressivité parce qu'à un moment donné, on en a assez de devoir toujours entendre que vos aïeux se sont pas forcément bien comportés et que le crime de la Shoah était un crime européen, allemand bien sûr, autrichien, mais aussi un crime européen par le biais des complicités. Il y a eu des complicités partout. Ça ne veut pas dire que tous les Européens sont coupables ou étaient coupables, loin de là, bien sûr que non. Mais il y a eu quand même des millions de coupables, ne serait-ce que par les biens volés. Les biens juifs qui ont été volés fait qu'il y a eu quand même eu des gens qui ont été coupables, au moins de complicité, par la spoliation. Et là, en la matière, quand on sait l'ampleur du pillage, on peut se poser la question en Allemagne de savoir quelle famille n'a pas, quelque part, au fond d'un placard, je ne sais quelle menorah, je ne sais quel bracelet, je ne sais quelle bague, je ne sais quel livre volé dans une bibliothèque. Donc il y a eu cette culpabilité-là, et cette culpabilité profonde, à un moment ou un autre, elle sort sous la forme d'un agacement devant le signe juif. Alors, pas le signe juif mort, parce qu'effectivement, il y a une sorte de dévotion qui entoure la mémoire de la Shoah, comme une véritable religion civile, mais devant le signe juif vivant. Finalement, les juifs fatiguent. Les juifs fatiguent, et ça se dit, les juifs, il y en a marre, quoi. C'est-à-dire la Shoah, encore la Shoah, vous allez encore parler de ça, et d'autres histoires et d'autres souffrances, d'où cette tendance générale dans l'opinion et aussi même dans les programmes scolaires à essayer de faire en sorte que le génocide des Juifs soit mêlé à d'autres catastrophes, alors qu'il a sa spécificité absolue qui fait qu'il ne peut pas être réductible à une autre catastrophe. Je donne un exemple précis de ce que je veux dire. Dans les intitulés des programmes scolaires aujourd'hui faits par le ministère, il est écrit « Génocide des Juifs et des Tziganes et les autres crimes de masse ». Tout est amalgamé. Oui. Alors que aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il y a des massacres ethnocidaires de Tziganes, mais qu'un génocide des Tziganes au sens juif du terme n'est pas prouvé du tout.
C'est la même chose que vous évoquez avec les homosexuels. Hein,
oui.
Là, très clairement, vous dites qu'il n'y a pas eu de génocide aux homosexuels.
Un génocide homosexuel, ça fait partie des niaiseries,
tout à fait.
Des niaiseries à la mode, ça.
Alors, dans le livre, vous évoquez la figure de deux personnes, Léon Poliakov et Joseph Bilig, hein, qui ont été au sein du Centre de documentation juive contemporaine, fondé à Grenoble, il faut le dire, sous la Résistance, pendant la 43, guerre, hein, oui. Qui a donné naissance au mémorial de la Shoah. Hein. Oui. Et vous dites que ces deux auteurs, en particulier Poliakov, a eu un courage assez inouï, parce que, d'une certaine façon, il s'est, j'allais dire, dressé contre ceux qui voulaient qu'il écrive l'histoire aussi, d'une certaine façon.
Oui, c'est-à-dire qu'il a ce qu'il a voulu, c'est effectivement faire écrire l'histoire et non pas faire un récit mémoriel seulement centré sur les victimes. Mmh. Il a voulu tenter de comprendre la machine génocidaire nazie, donc il a voulu faire un travail d'historien. Et il a fait une œuvre d'historien, puisque son livre Bréviaire de la haine, c'est la première grande étude en langue française sur le génocide, et quand on le lit aujourd'hui, 60 ans plus tard, bon, évidemment, il y a des erreurs, il y a des manques par rapport aux études actuelles de Friedlander ou de Hilberg. Mais c'est un très bon livre encore, ça reste un excellent livre.
Et ça, c'est très tôt, finalement, c'est dans la période 50, quoi.
Hein, oui, en 51. Il publie le livre en 51.
Comment vous expliquez que, entre autres histoires qu'on a racontées, accréditées, on a dit qu'il y avait eu un silence total à partir de 45-46 et que ce silence aurait commencé à cesser à partir de 58 avec Schwarzbach, avec La Nuit de Wiesel, alors que quand on regarde ce qui s'est écrit, ce qui a été publié, il y a eu très tôt les premiers récits, les premières études, la première documentation.
Exactement.
Comment vous expliquez ça ?
Il y a un mythe. C'est le fameux livre de François Azouvi, Le mythe du silence d'Auschwitz. C'est un excellent livre qui n'est pas contradictoire avec la thèse d'Annette Viviorca, qui est plutôt complémentaire, en fait. Parce que ce que dit Azouvi, c'est qu'il n'y a pas eu un silence absolu après la guerre. C'est ce que dit Annette Viviorca aussi. Il y a eu près de 200 publications entre 1945-1946 de témoignages. Oui. Mais ce que dit Annette Viviorca, ce qui est vrai, et Azouvi le confirme, c'est qu'à partir de 1947, les témoins qui veulent encore écrire ne trouvent plus d'éditeur. Effectivement, ça se tarit complètement. Donc, pas que les témoins ne veuillent plus écrire, mais c'est en général qu'il n'y a plus possibilité de s'exprimer. Donc, un silence absolu, c'est faux. On en parle après la guerre, on en parle peu, on sait les choses, on sait peu, on n'a pas tellement envie de savoir davantage, mais penser que le sujet est totalement tabou pendant 15 ans, c'est faux. Mais en tous les cas, ça n'a pas la centralité d'aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est qu'on en parle un peu, mais que même ce peu-là indispose. Et ça m'a beaucoup frappé quand j'ai travaillé sur ce livre, c'est que j'ai découvert que le sentiment de lassitude, il est si fort aujourd'hui, il est très ancien.
Il est très ancien, oui.
Il est de 1946.
Mais Primo Levi le dit un peu.
Il le dit.
Dans les échanges, dans les discussions qu'il peut avoir, on lui dit en 1947, écoute, arrête. D'ailleurs, il réussit à publier, si c'est un homme, chez Del Duca, mais c'est une toute petite maison, c'est chez Einaudi, que ça va prendre de l'ampleur à peu près 15 ans.
15 ans après, oui, 15 ans après.
Alors, dans votre livre, il y a quelque chose de tout à fait passionnant, qui est la question « Comment écrire l'histoire ?» Ça, c'est une question d'épistémologie fondatrice, qui renvoie d'ailleurs, je me souviens, d'un très beau papier de Michael Pollack dans les actes de la recherche sur la gestion de l'indicible après Auschwitz. Et vous pointez du doigt le fait que, dans toute cette histoire, les nazis, en particulier eux-mêmes, ont utilisé l'euphémisme, l'euphémisation des choses. Bon, sans vouloir faire pédant, je me suis replongé quand même dans l'étymologie du mot euphémisme, parce que c'est, si on veut comprendre, c'est essentiel. C'est littéralement en grec le bon mot, l'euphémisme. Mais le bon mot au sens du mot adouci.
Oui, ça.
C'est le mot qui dit le bien, en quelque chose, pour ne pas dire le mal. Comment est-ce que vous, historien, vous réussissez à sortir de ce piège qui consiste, vous le dites d'ailleurs, on doit sortir de l'euphémisme, mais en même temps, il ne faut pas non plus prendre la froide logique technologique des bourreaux.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut... Bon, les bourreaux, vous avez raison de le rappeler, les bourreaux ont euphémisé pour double raison. D'abord, une raison de prudence internationale. Il ne fallait pas rendre le crime visible. Donc, ils ont essayé de crypter au maximum l'information. Et prudence vis-à-vis d'eux-mêmes et de la propre psychologie de leurs troupes, et aussi de la société allemande, en maquillant le crime avec ces fameux mots, solution finale, transfert, évacuation, réimplantation, etc. Enfin, tout un vocabulaire crypté pour décrire la mise à mort. Bon. Et traitement spécial, le fameux traitement spécial. Bon. Et alors ensuite, pourquoi... Comment rendre compte de la réalité de la Shoah sans tomber dans le vocabulaire des assassins? Ça, effectivement, la voie est étroite. Ça veut dire par là que on ne peut pas utiliser ce vocabulaire euphémisé, on doit dire les choses telles qu'elles se sont passées. C'est-à-dire plonger dans cet océan d'horreur absolue, cette mer de sang absolue qu'a été Belzec ou Treblinka, sans euphémisation. Dire ce qui a été, c'est-à-dire une horreur absolue, et avoir à un moment donné le courage de regarder ça en face. Parce que ça, c'est difficile. Quand on regarde ça en face, là, on peut dire oui, voilà en quoi consistait cette tragédie, et on est capable d'en parler, on est capable d'assumer cette histoire-là. Et en même temps, ne pas avoir l'œil uniquement du bourreau. Je veux dire par là que faire une histoire uniquement des assassins et de la machine de mort, sans se préoccuper des victimes, c'est comme si on faisait sien, comme si on avait intériorisé nous-mêmes le regard des assassins sur les victimes, à savoir que les victimes ne comptent pas. Qu'elles sont un troupeau de lemmings, comme disait Stengel, le commandant Treblinka, qu'elles sont un troupeau de moutons, de rats, une masse informe, finalement, qu'on mène à la mort, mais à laquelle on ne prête même pas un regard. Donc, considérer que seuls les assassins vont nous dire quelque chose, c'est, et en pensant que seule la machine de mort va nous expliquer ce qu'est le génocide, c'est d'une certaine façon mettre nos pas dans les pas des assassins. Avec en plus, pour certains, je le dis, et là c'est beaucoup plus grave, et un attrait trouble, quasiment sadique pour le mal et pour le meurtre. Parce que ça, on ne peut pas l'exclure non plus. Il y a un intérêt glauque pour le sujet chez certains. Je pense au livre des Bienveillantes de Little, par exemple, mais pas seulement. Ces gens qui se focalisent sur la machine de mort, Einsatzgruppen et autres, sans avoir un regard sur les victimes, en pensant naïvement qu'elles n'ont rien à nous apprendre, c'est toujours un peu suspect. C'est un peu suspect et c'est même stupide sur le plan historique. Pourquoi? Parce que les victimes ont à nous dire ce qu'elles étaient. Elles ont laissé des traces, des écrits, les archives Ringelblum, les chroniques des ghettos, celles qu'on a retrouvées. La plupart des chroniqueurs n'ont pas survécu, mais leurs chroniques ont été, pour une partie, sauvées dans les archives Onek Shabbat, par exemple, le journal de Kaplan, le journal de Lévin, et tant d'autres. Bon. Eux, les victimes, ont à nous dire ce qu'elles étaient, mais ont à nous dire aussi le regard qu'elles portent sur les assassins, parce qu'elles les voient, les assassins. Bon. Tandis que l'assassin, lui, qui ne considère pas la victime comme faisant partie de la même espèce humaine, il ne la voit pas, donc il n'a rien à nous dire d'elle. C'est en ce sens que Friedlander voit juste quand il dit que la bonne approche pour une histoire de la Shoah, c'est ce qu'il appelle une histoire intégrée, c'est-à-dire une histoire d'en bas, une histoire d'en haut. Oui. En bas, c'est les victimes, en haut, les assassins. C'est ce qu'il fait dans son histoire du génocide des Juifs.
C'est une forme de multiposition. Quoi.
Voilà. Ah, il prend le point de vue des uns, c'est-à-dire les récits des uns, les récits des autres, et il voit comment les directives des uns, les assassins, se répercutent sur la vie des autres, les victimes. Et c'est donc un mouvement perpétuel, bas, haut, etc., de 6 mois en 6 mois, parce que son livre est divisé en séquences de 6 mois à peu près, qui nous permet d'avoir un panorama vraiment de cette situation. Tandis qu'une... un regard obnubilé sur les assassins nous montre l'univers des assassins. Et encore, pour avoir un regard complet sur les assassins, il faut avoir aussi le point de vue de la victime. Et celui qui le disait le mieux, c'est un romancier, parce que je le dis à plusieurs reprises à un moment donné dans le livre, à un moment donné, l'horreur est tellement difficile à dire que l'historien ne peut plus parler, c'est le romancier qui parle. C'est
par exemple Robert Merle qui parle.
Oui, mais
qui s'inspire des mémoires de Heuss.
Des mémoires de Heuss. Mais je pensais, quand j'écrivais ce livre, je pensais surtout à celui que je considère pour moi comme le plus grand prosateur de la Shoah, c'est Leib Rochman. Leib Rochman, dans son « À pas aveugle de par le monde », ce très beau livre écrit en yiddish en 58, traduit en hébreu seulement en Israël, il vivait à Jérusalem, en 68 et traduit en français seulement en 2012 chez De Noël, c'est dans cette 800 superbes pages, c'est un long poème métaphorique sur la Shoah, que Rochman dit que les bourreaux n'ont rien à nous apprendre parce que ce ne sont pas des hommes libres. Ce sont les victimes qui peuvent nous apprendre quelque chose. Et effectivement, lui, en tant que victime, on connaît son parcours. Hein, il a vécu 2 ans caché dans des conditions épouvantables. On vient de publier son journal, il y a un mois seulement, chez Calmann Lévy. Lui, qui a connu toute la durée de la guerre du ghetto jusqu'à la traque épouvantable qu'il a caché dans une fosse pendant plus d'un an avec quelques-uns des siens, lui, il peut nous raconter effectivement ce qu'étaient les uns, ce qu'étaient les autres.
Bon, on pourrait discuter pendant des heures. Hein. Il y a des passages tout à fait passionnants, en particulier la réaction des intellectuels chrétiens français, Jacques Maritain, François Mauriac, sur la question de des 47, 46-47. Hein. Moi, j'ai découvert ce texte de Maritain qui est passionnant, hein, qui est sur une page de votre livre. Il y a une autre réflexion qui est tout à fait essentielle sur les fondements de la volonté de la destruction des Juifs en Allemagne, et vous rapprochez ça par rapport à Luther et par rapport à la rupture avec Rome. Ça, c'est vraiment un point, je pense, tout à fait essentiel. Et puis, il y a toute la partie qui est à la fin de votre livre, qui est, on va dire, les confusions qui sont faites dans la dimension, on va dire, non seulement de la banalisation, mais en fait, tout est mélangé, on confond tel ou tel événement particulier, y compris d'ailleurs, aujourd'hui, dans le théâtre moyen-oriental, avec la situation. Je retiens aussi cette phrase que vous citez, qui est terrible, de Ben-Gourion, qui dit « ce ne sont pas forcément les meilleurs qui s'en sont sortis ». C'est très dur, c'est une phrase très très dure. C'est le livre de
qui est constamment répété par un certain nombre d'enfants de rescapés. Qui sont très choqués par cette phrase, jusqu'à aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Oui. Merci à vous, cher Georges.
Je pense que...